enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Chose que j'ai fait un certain temps en cachette et dont j'ai pas honte. C'est juste au moment où je me suis converti. Je rentrais au service militaire dans la semaine, donc je me suis converti juste avant, quoi, hein, juste au dernier moment. C'était bien pour moi, je crois, et puis pour eux aussi là-bas d'ailleurs. Alors, donc, et quelqu'un m'a donné, donc j'étais chrétien, pas vraiment encore, pas tout changé, mais en cours. Et donc quelqu'un m'a donné une Bible de poche. Alors, puisque c'était une Bible de poche, je la gardais dans ma poche et Et tout de suite, j'ai pris vraiment l'envie de lire la Bible, d'aimer la Bible, tout ça. Alors, comme je m'étais montré assez insolent avec les officiers supérieurs, et qu'on m'a traité de pacifiste, etc., donc pour me mettre à l'abri et que je contamine pas tout le monde, ils m'ont mis aux cuisines, et j'ai fait la plonge pendant 10 mois et demi, à peu près, sur mon... temps de service militaire, donc je peux parler de la plonge, mais le reste me demandait pas. Hein. Et donc j'étais là et je me suis rendu compte que pour être tranquille, ce qu'il fallait surtout, c'est que je fasse bien mon travail. Et après, si le travail était fait, ben on me laissait tranquille. Donc je faisais bien ma plonge comme il faut, je m'assurais que tout soit bien propre, tout nickel, tout ça. Et puis alors après, j'allais lire la Bible en cachette, comme j'avais toujours ma Bible de poche dans ma poche. Alors après, j'allais lire en cachette. Et je me souviens, il y avait un grand réfectoire avec des tas de fenêtres, des baies vitrées comme ça, avec des gros rideaux épais. Et donc, je me mettais une chaise et derrière le rideau, comme ça, ça faisait un renfoncement. Et je me mettais comme ça, derrière le rideau, entre le rideau et la fenêtre. Personne ne pouvait me voir. Et là, j'ai lu en cachette. J'ai lu la Bible comme ça pendant des heures. Mes camarades me voyaient régulièrement disparaître quand le boulot était fini. Mais j'ai lu comme ça, honnêtement, des heures par jour, quoi. Hein. Je m'étais dit, bon, ben, faut avancer dans la Bible. Si je lis, si je commence par lire, par exemple, 10 chapitres par jour, ça va m'avancer un peu, quoi. Alors, je lisais tous les jours en 3-4 mois. J'avais lu toute la Bible, j'avais lu le Nouveau Testament plusieurs fois. Et comme je voyais que je me rappelais pas tout, alors je me donnais la peine pour apprendre par cœur. J'apprenais des versets, j'apprenais des chapitres, j'apprenais la Bible. Et ça m'a beaucoup, c'est ça qui m'a beaucoup aidé à avancer. Vous voyez, on s'était avec Brigitte, on s'était converti avec un tout petit groupe de chrétiens assez marginaux qui étaient à cette époque-là en Normandie. Moi, j'étais au service à Grenoble. Et on savait même pas qu'il existait des églises évangéliques. On connaissait rien. On croyait un peu qu'on était tout seul, qu'on était enfin les derniers, on arrivait, le Seigneur nous avait attendus, voyez. Et on se croyait vraiment, on se croyait tout seul. Mais personne pour nous aider. Mais le Seigneur était là. Et quand je lisais la Bible, alors au fur et à mesure, je lisais. Alors, il y a des choses que je comprenais, d'autres pas. Mais ça me faisait du bien. Au début, par exemple, je lisais en fumant, puisqu'à cette époque-là, je fumais encore. Alors, je lisais vu. Et puis, à un moment, j'ai commencé à sentir que fumer en lisant la Bible, ça allait pas bien ensemble. Mais ça, on me l'a pas dit. Il y en a à qui on le dit et ça leur suffit pas pour changer, vous voyez. Mais moi, on me l'a pas dit et ça m'a suffi pour arrêter. Et le Seigneur peut agir comme ça parce que sa parole est très très puissante. Et ce matin, j'aimerais simplement parler un petit peu de ce rapport que nous avons avec la parole de Dieu et en tant que chrétien. Et je veux vous dire que honnêtement, je pense que un des aspects fondamentaux de notre maturité dans la foi, notre maturité dans la vie chrétienne, est le plus souvent quelque chose qui est en proportion avec notre relation avec la parole. Et je voudrais ce matin parler de la parole écrite. Je pense que c'est difficile de trouver quelqu'un, un disciple, qui serait devenu quelqu'un de vraiment de vraiment fort dans la foi, de vraiment efficace aussi dans le service de Dieu, portant du bon fruit dans sa famille, partout dans l'église, sans que ce soit quelqu'un qui aime la Bible, qui aime la parole de Dieu. Et vous trouverez pas dans la Bible des gens qui auraient pu devenir vraiment des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, vraiment fidèles, solides, sans que ce soit des gens qui aient aimé la parole de Dieu. Alors, peut-être que là, il faut peut-être préciser quelque chose. C'est que pendant un temps, quelques-uns d'entre nous, on a pu avoir un peu l'impression que ce qui nous avait été présenté peut-être de manière traditionnelle, religieuse, etc., à propos de la Bible, on a peut-être eu l'impression des fois que ça devenait quelque chose d'un peu légaliste, hein, que comme si d'abord il faut lire, ou comme si on nous avait présenté la Bible comme un recueil de prescriptions, d'ordonnances, un règlement intérieur, etc. Et peut-être que si cette approche était un peu de ce genre-là, alors quelques-uns d'entre nous, on a pu après avoir un mouvement de recul avec la Bible. C'est possible. Et aussi, une autre chose qui a pu aussi, j'allais dire, aider quelques-uns à ne pas trop chercher la parole de Dieu, c'est que ils ont tellement compris, et c'est juste, que la parole de Dieu n'est pas seulement la parole écrite, mais que la parole de Dieu est aussi la parole vivante, hein, la parole personnelle, la parole que Dieu nous dit. Comme ce matin, on a entendu Dieu parler directement. Dieu interpellait directement quelqu'un. Et Dieu peut le faire aussi, nous parler directement à chacun d'entre nous, dans notre vie personnelle, dans notre culte, dans notre voiture, dans toute notre vie. Donc, c'est vrai, la parole de Dieu n'est pas seulement la parole écrite dans la Bible. Ok? Mais le danger, c'est après de dire, moi je veux seulement la parole que Dieu me dit, parce que c'est une parole personnelle, une parole vivante, une parole adaptée, une parole efficace, etc. Et à cause de ça, de négliger la parole écrite. Et ça, si vous faites ça, vous faites une grosse erreur. Vous faites une grosse erreur. Parce que le même Dieu qui nous parle aujourd'hui directement, de personne à personne, c'est le même Dieu qui a parlé cette parole qu'est la Bible, qu'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et donc, la meilleure façon de rechercher la parole personnelle que Dieu va nous dire, la parole vivante, la parole actuelle, la parole personnalisée, la meilleure façon de rechercher cette parole, c'est de rechercher la parole écrite. Plus vous lisez la Bible, plus vous lisez, pas lire pour lire, hein, c'est pas la Bible, c'est pas, j'allais dire, il s'agit pas de faire des marathons de lecture. Mais plus vous recherchez et plus vous êtes en bonne relation avec la parole, avec la Bible, plus cette relation vous met dans de bonnes dispositions pour être en relation avec le Dieu qui parle la Bible et qui va vous parler aussi à vous-même. Alors, il y a un côté, pour quelques-uns, il y a aussi peut-être encore une chose qui peut arrêter quelques-uns, c'est qu'il y en a qui ont, de tout ce qui est, par rapport à tout ce qui est écrit, il y en a qui ont des mauvais souvenirs. Parce que pour eux, dès qu'ils voient un livre, quel qu'il soit, avant d'avoir même seulement lu le titre, pour eux, un livre, déjà, c'est un livre. Et un livre, c'est les études, c'est l'école, c'est les profs, c'est les examens, c'est les mauvaises notes. Alors, déjà, dès qu'ils voient arriver l'ombre d'un livre, déjà, ça commence déjà à leur faire une répulsion comme ça. Quelqu'un m'a dit, je demandais souvent à des gens, est-ce que tu lis la Bible? Et souvent, des gens me disent, mais moi, j'aime pas lire. Je dis, mais lire la Bible, c'est pas lire. C'est pas lire pour lire. Et vous avez des tas de gens qui, de toute leur vie, n'ont pas fini la lecture d'un seul roman, mais qui aiment lire la Bible. Hein. Parce que lire la Bible, c'est pas lire pour, j'allais dire, comme pour connaître la fin d'un roman. Lire la Bible, c'est entrer en relation avec celui qui nous parle à travers la Bible. C'est une relation. C'est pas d'abord une étude, même s'il y a une étude. Mais c'est pas d'abord une étude. D'abord, c'est un contact avec quelqu'un. Donc, il s'agit pas de lire seulement en se disant, bon, ben, comme si c'était superstitieux. Hein. Quelquefois aussi, pour certains chrétiens, c'est devenu la Bible en tant qu'objet et comme devenu un objet sacré. Ce qui est sacré, c'est la parole de Dieu vivante, réelle, qui est dedans. C'est pas l'objet. Vous pouvez bien avoir une Bible dorée sur tranche, illustrée à la main, avec, je sais pas moi, recouverte en peau de zébu ou de, non, de, je sais pas quoi, de, qu'est-ce qui est plus, de lézard, hein, ou de serpent. Ou vous pouvez bien faire ce que vous voulez, vous pouvez en faire un objet, en objet de prix, vous pouvez le mettre dans un écrin de velours au-dessus de votre cheminée, tout ça vous donnera rien du tout, vous savez bien ça. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va en tirer dedans. Donc, on lit pas la Bible tous les jours pour se dire, ah, j'ai eu ma portion de lecture de la Bible. Il y avait des chrétiens qui sont comme ça. Ils oseraient pas, mais c'est superstitieux. Ils oseraient pas se coucher sans avoir au moins ouvert la Bible et lu un mot. J'ai lu la Bible, hop, ils referment. J'ai lu la Bible, je suis tranquille, on peut rien me dire. Bon, mais si c'est ça, c'est nul. Si c'est ça, t'es nul. Tu peux aussi la laisser fermer. Ça te donnera rien de plus. Ce qui est intéressant, c'est de rentrer en relation avec quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est de toucher Dieu et de se laisser toucher par Dieu à travers la Bible. Donc je crois qu'une vie spirituelle, forte, c'est une vie spirituelle que nous-mêmes, nous pouvons façonner, construire. Dieu nous a donné des moyens, Dieu nous a donné des outils. Être en contact avec Dieu, être ce qu'on appelle globalement être béni. Être béni, c'est pas un tirage au sort, c'est pas une loterie, c'est pas comme si Dieu avait décidé de temps en temps d'en bénir quelques-uns, alors il a mis nos noms dans un chapeau, et puis de temps en temps il fait un super loto, et il tire au sort, tout pauvre, tout d'un coup il dit Maurice, béni, bon, et puis ou un autre, on dit bah, tiens, comment ça m'est tombé dessus, enfin en tout cas j'ai du pot, hein. Mais c'est pas comme ça. Dieu nous a donné des outils. Et il nous a montré comment avoir le moyen, un contact avec lui. Et nous pouvons l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Je sais que quelques-uns vont dire, oui, mais maintenant, avec la vie trépidante, etc. Bon, avant, elle était un peu pidante, maintenant, elle l'était, mais même ça, c'est des excuses. Avec une vie très, très, très pidante, eh bien, la plupart de ceux qui n'arrivent pas à trouver 5 minutes pour ouvrir la Bible, regardent les infos tous les jours. Bon, qu'est-ce qui est plus important? De regarder les infos à 13h et à 20h tous les jours ou de prendre un quart d'heure pour lire la Bible? Vous voyez, on met les priorités, hein, Samuel en parlait il y a quelque temps, les priorités. C'est nous qui les fixons dans notre vie. Et chaque fois qu'on dit qu'on n'a pas le temps, on serait quelquefois plus honnête de dire « j'ai pas voulu prendre le temps ». C'est pas tout à fait pareil. Maintenant, je sais bien que beaucoup ont des vies très, très, très remplies, c'est vrai. Mais si elles sont trop remplies pour qu'on puisse y mettre un quart d'heure de contact avec Dieu, avec sa parole, alors il y a sûrement, dans le remplissage de ces 24 heures, il y a sûrement quelque part un quart d'heure qui est là comme un passager clandestin, il faut l'évacuer. Hein. Vous pouvez enlever un quart d'heure quelque part et le remplacer par ça, et vous vous en trouverez tellement mieux par ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on lit la Bible? On lit la Bible pour... On lit pour connaître. Hein. Et encore une fois, comprenez-moi bien, c'est pas connaître simplement pour savoir ce qu'il y a dedans. Parce que sinon, quand vous l'avez lu une, deux, trois fois, bon, bah, en entier, bon, bah, voilà, après, on connaît la Bible. Non, c'est pas ça. C'est pour, encore une fois, c'est pour être ressourcé dans notre entendement, dans nos émotions, dans notre vision, dans nos objectifs, dans nos capacités à combattre. Hein. On connaît la Bible pour combattre. Hein. Vous avez remarqué, comme moi, que lorsque Jésus a combattu contre l'adversaire, contre le diable, dans le désert, il n'a pas combattu avec des raisonnements. Il n'a pas combattu avec des émotions. Il ne sait pas, il a pas, je sais. Il a combattu en sortant la Bible. Hein. ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il la connaissait. Vous allez me dire, ben oui, forcément, c'est lui qui est la parole de Dieu. Mais quand Jésus est descendu du ciel, il a dû apprendre, hein. Il a appris à dire papa, maman, il a dû apprendre à lire, il a dû apprendre, on lui a montré, on lui a dit, toi, ça c'est un A, ça c'est un B, il a appris, et il a appris à lire, et il a appris à lire la Bible, et il a appris les versets, il les a étudiés, il a passé du temps, et il les a appris par cœur. S'il pouvait les citer comme ça, il n'était pas dans le désert avec poussant une brouette avec tous les rouleaux de la Torah, et puis avec une concordance à côté. S'il les a cités comme ça, naturellement, c'est parce qu'il les avait appris. C'est parce qu'il les connaissait dans sa tête. Il les connaissait par cœur. Et Jésus a résisté à l'adversaire, au diable. Il lui a résisté par la Bible. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et il a tiré du livre du Deutéronome que nous, souvent, la plupart d'entre nous, hein, regardons comme un livre difficile, ardu, vraiment, oh, c'est la loi. Pour Jésus, c'était une caisse de munitions. Toutes les citations que Jésus a tirées hein, de ce livre pour combattre le diable sortent du Deutéronome. Pour Jésus, c'était un livre de combat spirituel. Vous voyez, des fois, on a une approche, hein, une approche de la parole écrite qui est des fois un petit peu limitée quand même. Hein. Et ça veut dire que si c'est comme ça que Jésus a combattu contre le diable, pourquoi devrions-nous nous faire autrement ? Comment pourrons-nous nous dispenser d'utiliser les mêmes armes, les mêmes moyens, les mêmes outils, les mêmes techniques? Ça veut dire que si nous ne connaissons pas la Bible, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous allons nous trouver fort démunis. Nous allons nous trouver en difficulté, nous ne saurons pas comment réagir. Le tout, vous voyez, c'est pas de connaître, la recette c'est pas de connaître par cœur. C'est pas le par cœur pour par cœur qui sert. Si vous citez au diable un verset, même si vous l'avez cité en mettant un mot un peu différent, si vous avez changé un peu l'ordre de la phrase, si vous avez mis une proposition après l'autre, il s'en fiche, il a peur quand même. Parce que c'est la puissance que Dieu a mis dedans qui lui fait peur. C'est pas la forme grammaticale. Même si vous cabossez un peu deux, trois mots, ça fait rien. Il va avoir peur quand même. Parce qu'il tremble devant la parole de Dieu. Il tremble pas devant les raisonnements. Il tremble pas devant des émotions. Il tremble devant la puissance de la parole de Dieu lorsqu'elle est citée avec foi. Pas citée pour citer. On n'a pas besoin de faire des moulins de prière ou des magnétophones. Mais citée avec foi. Si c'est comme ça que Jésus a agi, pourquoi pourrions-nous espérer faire autrement? Vous le lirez ça pour ceux qui cherchent. Vous avez ça par exemple dans Matthieu 4, hein, au début du chapitre. Hein, Jésus dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Si nous voulons lutter contre le diable, contre la tentation, contre la chair, nous n'aurons pas d'autres véritables armes. Les autres armes sont des fausses armes. On va des fois essayer de s'en sortir en disant, je vais faire un gros effort. Je vais mobiliser toute ma volonté. Mais c'est quoi? Toute ta volonté dans un domaine qui est un domaine spirituel. Si c'est une volonté humaine, on passe complètement à côté de la cible. On a besoin de connaître la Bible. Si je vous demandais, par exemple, combien vous pourriez citer de versets par cœur? Même en les cabossant un peu, hein? Combien vous pouvez vous espérez en citer combien? Allez, même sans les références. Parce que le diable n'a pas tellement peur des numéros, hein? Il a peur de la puissance qui est dedans. Alors pour quelques-uns, c'est limité, hein? Par Jean 3,16, il y en a qui ont un petit peu du mal, hein? Et encore, bon. Mais. Et ce qui m'étonne, c'est que. Quelques-uns d'entre nous connaissons l'Évangile et nous connaissons la Bible depuis des années. Et que pendant des années, eh bien nous n'avons pas pu réussir à accumuler ne serait-ce qu'une poignée, une poignée de flèches dans notre carquois. Et on continue d'être toujours aussi désorienté, perplexe. Chaque fois qu'on est en difficulté dans un problème quelconque, on n'a pas d'armes, on ne sait pas quoi dire, hein. On ne sait pas comment résister au diable. Hein. Alors bon, on connaît surtout au niveau des numéros, des références, on connaît surtout la référence, hein, par exemple, du pasteur. hein, c'est son numéro de téléphone, ou la référence de la sœur Angèle qui est tellement spirituelle. Alors, de temps en temps, on lui téléphone comme ça. « Ouh, ça va pas du tout en ce moment, priez pour moi. » Bien sûr, ils vont le faire. Mais ça n'aura jamais l'efficacité de toi, la parole dans ta bouche à propos de ton problème. La meilleure aide qu'on puisse apporter à quelqu'un, c'est de l'aider à s'aider lui-même. Toujours, toujours. Le faire à la place de quelqu'un, ça lui rend service sur le coup. Mais c'est pas définitif. Une autre chose, on cherche à connaître la parole de Dieu parce que c'est indispensable pour pouvoir témoigner autour de nous, pour pouvoir gagner des âmes, pour pouvoir convaincre. Hein, par exemple, on peut lire ensemble, on va lire 2 Timothée, un verset que vous connaissez bien, la plupart. 2 Timothée 3,16. On ne va pas le réciter ensemble, on va le lire. Comme il y a peut-être quelqu'un qui s'est converti la semaine dernière, il ne le sait pas encore. 2 Timothée 3,16. Toute écriture, ou toute, on pourrait essayer de traduire aussi bien, toute l'écriture, c'est-à-dire l'ensemble de la parole écrite, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous voyez ? Pour enseigner, pour convaincre. Vous pouvez essayer de convaincre des gens avec des arguments, vous pouvez les convaincre avec des expériences, mais tout ça, il y a un moment où une véritable conversion, il faut bien se rappeler qu'une vraie conversion sera toujours opérée par la puissance du Saint-Esprit qui conduit quelqu'un dans la vérité. C'est une règle céleste. Jésus dit que c'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité. Chacun d'entre nous, nous ne pouvons pas conduire quelqu'un dans la vérité. Aucun d'entre nous. Nous pouvons conduire quelqu'un vers la vérité, devant la vérité, face à la vérité, jusqu'à la vérité. Voilà. Mais celui qui conduit dedans la vérité, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous avons besoin des armes qui est la parole de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu habite, anime, et c'est lui qui va utiliser cette puissance de la parole de Dieu pour conduire quelqu'un dans la vérité. Ce sera une force, une capacité, un talent extraordinaire si vous connaissez la Bible. Alors, encore une fois, vous avez quelques groupements chrétiens ou, je ne sais pas, pseudo-chrétiens qui sont réputés pour avoir appris des versets machinalement de la parole de Dieu. Et on dit, ouais, ils connaissent, en fait, ils ont appris des versets par cœur, etc. Alors, bon, ce sont des serviteurs de notre grand Dieu que certains appellent Yahvé, d'autres Jéhovah. Bon, mais ça, c'est... Et à cause de cet exemple-là où on a cru remarquer que c'était fait chez eux, que c'est fait de façon très très machinale, pour certains chrétiens évangéliques aujourd'hui, ils ont l'impression que le fait même de commencer à apprendre des versets par cœur, c'est forcément retomber dans un mauvais fonctionnement. Mais c'est pas parce que vous avez des gens qui font quelque chose d'une mauvaise façon que la chose est mauvaise. C'est leur façon de le faire qui est mauvaise. Apprenez des versets par cœur, apprenez des versets, apprenez la Bible, et quand vous aurez besoin, le Saint-Esprit aura besoin de vous aider à utiliser ce verset, alors parce que vous le connaissez, le Saint-Esprit pourra vous le rappeler. Si vous ne le connaissez pas, il ne pourra pas vous le rappeler. Le Saint-Esprit ne pourra pas vous rappeler des choses que vous ne connaissez pas. Alors bien sûr, on peut dire, oui, mais le Saint-Esprit peut me le dire directement. Ah bien sûr, il peut aussi ouvrir le ciel, le peindre en rouge dans le ciel. Non, mais tout est possible. Mais est-ce que c'est normal de rajouter nous-mêmes devant Dieu des difficultés alors qu'il nous a donné les moyens de faire des choses qu'après on va exiger que lui fasse surnaturellement? Ben, c'est pas surnaturel d'ouvrir une Bible tous les jours. C'est pas surnaturel tous les jours d'avoir un programme de lecture. C'est pas surnaturel de se dire, de se faire une règle à soi-même, dire par exemple, tous les jours je lis 4 ou 5 chapitres et dans une année j'ai lu la Bible en entier. Vous mettez dans votre Bible une petite marque, une photo, Hein, une photo de votre chérie, une photo de, je sais pas moi, de votre famille. Et puis derrière, vous mettez, par exemple, vous décidez aujourd'hui de lire de façon suivie l'évangile de Luc. Vous marquez Luc, et tous les jours, cette marque, vous la laissez dans l'évangile de Luc, là où vous en êtes. Vous avez lu de Luc 1 à 5 aujourd'hui, par exemple, demain, vous lirez de 6 à 9, de 6 à 10. Et puis voilà, et vous lisez en suivant comme ça. Quand vous avez fini Luc, vous n'êtes pas obligé de lire le livre qui est directement après, dans l'ordre de la Bible. Hein, parce que ça, c'est un ordre qui est complètement arbitraire. Mais après ça, quelque chose vous a posé une question à propos, je sais pas moi, de la Genèse, vous dites tiens, je vais lire la Genèse, mettez la Genèse, et puis après vous avez envie de lire l'Apocalypse, lisez l'Apocalypse, et sur votre feuille vous marquez tous les noms de tous les livres comme ça. Si vous lisez 4-5 chapitres tous les jours, à la fin de l'année vous avez lu la Bible en entier, voilà, et le Saint-Esprit vous aide. Alors si à un moment vous êtes plus conduit à relire le Nouveau Testament, ben lisez plus le Nouveau Testament. S'il y a des passages où dans certains livres, où il y a des fois des généalogies, des noms, etc., c'est un peu comme des arêtes, ben les arêtes, quand vous mangez du poisson, vous les mettez de côté. Voilà. Personne ne vous demande de les avaler. S'il y a des trucs qui sont trop longs avec des nombres, et que vous voulez pas spécialement étudier ça, n'ayez pas une crainte superstitieuse. Oui, mais j'ai sauté le chapitre. Ben, tu as bien fait. Comme ça, tu t'es nourri avec quelque chose qui était à ta portée. Il faut faire attention au formalisme. C'est pas du formalisme. Ce que Dieu veut, c'est nous donner, c'est pas nous donner des habitudes scolaires. Ce que Dieu veut, c'est nous donner de la vie. C'est nous donner de la nourriture, des vitamines. Alors, tu prends tes vitamines tous les jours. Ben bien sûr, il faut ouvrir le tube, il ne faut pas essayer d'avaler le tube avec. Alors, si vous faites ça tout le temps, comme ça, vous avez avec la parole de Dieu un rapport, et puis vous sentez rapidement que vous allez voir que vous apprenez des choses. Et vous-même, ça va vous aider. Vous lisez avec toujours à la main, par exemple, un stylo, et chaque fois que vous trouvez quelque chose qui vous plaît, vous donnez un petit coup de stylo sous le mot principal. Ou vous avez un truc avec des couleurs, des surligneurs, surlignez juste dans la marge, sur les deux premières lettres, là, de la colonne, tac, vous avez, je sais pas moi, quand vous avez la couleur rouge, quand ça concerne Jésus, que ça vous plaît, mettez un coup de rouge. Quand c'est du jaune et que c'est glorieux, que ça vous parle du ciel, mettez du jaune. Quand ça parle des miracles, hein, vous faites des trucs à vous comme ça. Comme ça, vous faites de la lecture de la Bible quelque chose qui vous est personnalisé, où vous savez que ça s'inscrit dans une démarche de progrès, dans une démarche de construction. Vous construisez la Bible à l'intérieur. Avec le temps, pour vous savez que aujourd'hui, peut-être vous lisez au chapitre 4 dans un livre, ça vous dit rien, mais peut-être demain, après-demain, les chapitres suivants vont l'éclairer. Ou une autre fois, vous allez faire des recoupements, et petit à petit, ça devient quelque chose de puissant pour vous. Mais sinon, pichenoter comme ça dans la Bible, en tournant les pages au hasard pour lire de temps en temps 2-3 versets. Bien sûr que comme ça, c'est très... C'est pas satisfaisant, parce que la plupart du temps ça donne rien, ou alors on a une vision complètement tellement fragmentaire, on prend des versets tirés de leur contexte, après on essaye de leur faire dire des analogies, mais qui sont complètement évaporées. Alors après bien sûr, on n'a même plus envie. Ça paraît mystérieux, mais c'est pas mystérieux la Bible. Dieu est intelligent, il nous a donné un truc là qui est construit, qui est sage, c'est bien fait. Seulement il faut le prendre comme il est, il faut le prendre par le bon bout. Vous avez besoin de connaître la Bible pour marcher dans la foi. Pour marcher dans la foi. Quand au début de l'évangile de Jean a présenté Christ, hein, il a dit c'est la parole de Dieu. Il a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et il ajoute même et la parole était Dieu. C'est par elle que tout a été fait. Il n'y a rien de ce qui existe qui aurait pu être fait sans être fait par elle. Or la parole de Dieu a été faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Dans la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, Christ est éternel, parce qu'il est le Fils de Dieu éternel. Mais Jésus, On a fêté son anniversaire d'il y a 2000 ans. Parce que Jésus, c'est le Christ qui a été fait chair dans la personne de Jésus. C'est pour ça que c'est Jésus-Christ. Mais c'est ce Jésus-Christ qui a vaincu le diable, c'est ce Jésus qui a vaincu la mort, c'est ce Jésus qui est ressuscité, c'est ce Jésus qui est en chacun d'entre nous. Il est la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on l'aime et en même temps qu'on n'aime pas la parole? C'est un non-sens. C'est sa définition même. Il est la parole de Dieu. Alors comment on va dire qu'on aime Jésus, mais que, oh, moi, la parole de Dieu, ça ne me parle pas? Il y a un problème. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible. C'est comme si tu disais que tu aimes quelqu'un, et puis après, si tu cites son nom, tu dis, oh non, ben, oui, mais en tout cas, je ne l'aime pas beaucoup. Mais alors, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Mais si tu l'aimes, reprends-en. Quand on aime quelque chose, on se resserre. Jésus est la parole de Dieu. C'est lui, en nous, qui va nous permettre de marcher par la foi. Quand l'apôtre Pierre, je cite souvent cet exemple parce qu'il est tellement, il a un côté tellement, on dirait une démonstration d'école. Quand l'apôtre Pierre était dans la barque, et puis qu'il a vu Jésus qui marchait sur l'eau. Pierre était resté quand même, passé le premier moment de stupéfaction, il est resté quand même perplexe. Il dit, ça c'est quand même fort comme coup. Voilà un gars, on le pose sur l'eau, il tient dessus. C'est quand même quelque chose, ça. Et il est fait comme moi. Et moi, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Alors il a dit à Jésus, et moi alors? Ben Jésus lui dit, viens. Et parce que Jésus lui a dit, viens, ce mot, cette parole qui est sortie de la bouche de Jésus, cette parole a donné à Pierre la capacité de marcher sur de l'eau sans s'enfoncer. Parce que Pierre ne marchait plus sur l'eau seulement, il marchait sur la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus qui nous donne la capacité de marcher par la foi. Si vous voulez marcher par la foi sans la parole de Dieu, vous allez marcher sur des croyances, sur des convictions, sur des intentions, sur de la bonne volonté. Vous allez peut-être avoir une bonne volonté humaniste. Vous allez être très charitable avec des guillemets, mais ça va vous servir à que dalle. Parce qu'il vous faut quelque chose de solide sous les pieds. Et c'est la connaissance de la parole de Dieu, et c'est parce que nous connaissons la parole de Dieu écrite, que cette parole de Dieu écrite par la puissance du Saint-Esprit s'incarne en nous pour devenir une parole vivante, une parole de foi. C'est pas simplement connaître pour connaître, mais c'est la base. Mais sans base, on construit rien non plus. Ça c'est construire la parole, c'est construire sur la vie, sur le roc. La parole de Dieu, c'est du roc. Mais si vous n'avez pas le rocher, vous pouvez construire solide, mais solide sur du sable. C'est quand même, ça s'écroule quand même. Il vous faut ça. Il nous faut, vous avez par exemple, quand les apôtres, Jésus a appelé les apôtres, il leur dit, avance en eau profonde et jetez vos filets. Bon, ils ont dit, écoute, toi t'es gentil, tu faisais quoi avant? Charpentier? Ah ouais? Oui, ben c'est bien la charpente. Nous, on est pêcheurs, tu vois, pêcheurs, professionnels, on a toujours fait ça, on connaît que ça. Mais alors ça, on connaît, tu vois. J'ai l'impression que toi, tu le... Poisson, c'est pas ton truc, le poisson, hein. Tu vois, nous, on a pêché toute la nuit. On y est allé au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure, avec la bonne technique, on n'a rien pris. Alors pour aujourd'hui... Bon... Bon, ben écoute, sur ta parole, on va y aller. Vous voyez ? Ils y sont allés sur sa parole, contre leur conviction, contre leur expérience, contre leur fatigue, contre leur découragement, contre le fait que ce n'était pas opportun, mais sur sa parole. Ils ont dit, sur sa parole, sur ta parole, je jetterai mon filet. Et quand ils l'ont jeté, le filet, sur sa parole... Alors ils ont pêché ce qu'ils n'avaient pas pêché pendant peut-être 3 semaines auparavant, encore tout réuni à la fois. C'est sur sa parole que nous pourrons construire quelque chose de miraculeux. Sur sa parole que nous pourrons construire dans nos vies des relations de couple miraculeuses. sur sa parole que nous pourrons construire quelque chose de miraculeux dans la vie de nos enfants. Sur sa parole, nous pourrons construire dans l'Église quelque chose de miraculeux. Sur sa parole, nous pourrons faire produire quelque chose autour de nous, quelque chose qui dépassera nos limites personnelles. Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, alors vous recevrez rarement la parole personnelle. Et vous serez, et j'ose même vous dire que les gens qui n'aiment pas vraiment la Bible, qui n'aiment pas la parole de Dieu, qui n'aiment pas la lire tous les jours, la travailler, la méditer, la croire, la mettre en pratique, la réfléchir, l'écrire, l'apprendre par cœur, et qui veulent quand même vivre des choses très miraculeuses avec la parole de Dieu, sont des gens qui sont en danger. Ils sont en danger parce qu'ils sont en danger de mysticisme, ils sont en danger d'illuminisme, ils sont en danger d'être trompés parce qu'ils n'ont pas les références, parce qu'ils n'ont pas les bases, parce qu'ils ne sauront pas reconnaître entre la voix agréable du serpent et la voix douce du bon berger. Si Jésus ne connaissait pas vraiment, n'avait pas bien connu la parole écrite, vous savez quand le diable lui a dit dans le désert des choses qui était très intéressante, très pertinente. Et lui-même, il s'était lui-même appuyé, soi-disant, en présentant des versets de la parole aussi. Si vous n'avez pas vraiment la base, vous allez vous faire rouler dans la farine. Ne croyez pas, je pars du principe que tout le monde ici est très 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 intelligent, donc je veux soupçonner personne. Mais ne croyez pas que vous soyez capable en intelligence de rivaliser avec le diable. Il est malin. C'est son nom. Jésus lui-même a dit qu'il l'a appelé le malin. Donc si vous voulez croire que vous êtes capable, sans avoir des armes qu'on vous aura données, qui ne soient pas les vôtres, mais là vous êtes cuit, vous allez vous faire rouler dans la farine, il va vous posséder comme il voudra. C'est pour ça que Dieu nous a donné les moyens de nous défendre. Mais il faut être réaliste. Il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on soit concret, il faut qu'on soit, j'allais dire, réel. La foi, la vie chrétienne, l'évangile, c'est pas des impressions. C'est pas des impressions, c'est une guerre, c'est une lutte. Il faut une stratégie, il faut des armes, il faut des moyens de défense. On part pas comme ça, pour la fleur au fusil, comme ça. On part avec du solide. Quand, dans Luc, tiens, on peut lire encore ça un petit bout. Dans Luc, hein, Luc au chapitre 4, Luc 4, verset 36, « Tous furent saisis de stupeur à propos de Jésus, et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Vous voyez, ils ont dit quelle est cette parole. Ils n'ont pas dit quelle est cette doctrine, quelle est cette pensée, quelle est cette philosophie, quelle est ce... Ils n'ont même pas dit quel est ce don. Ils ont dit quelle est cette parole. Ils ont reconnu que la puissance de Jésus était une puissance de parole. Plus loin, au verset 38, juste après, Jésus est allé chez la belle-mère de Simon-Pierre qui avait une violente fièvre. Verset 39, s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, hein, et la fièvre la quitta. Il a menacé la fièvre. La fièvre, hein, c'est quelque chose d'impersonnel, c'est même si c'est personnalisé par des microbes ou des virus, mais c'est quand même pas une personne. Comment est-ce qu'on peut parler à une fièvre, hein? Mais Jésus n'a pas hésité à utiliser sa parole, et avec sa parole, il a parlé à la fièvre. Même le mot ici, menacer, j'aime pas beaucoup cette traduction de menacer, c'est parce que menacer, ça veut dire dire à quelqu'un, si tu fais pas ça, voilà ce qui va t'arriver, hein, comme on dit à nos enfants, hein, si tu fais pas ça, tu vas avoir une fessée. C'est souvent, d'ailleurs trop souvent, une parole qui est sans suite. Alors il vaut mieux pas la dire, ou alors il faut la dire et lui donner une suite. Hein. Mais... C'est pas dans ce sens que Jésus a menacé la fièvre ici, c'est plus typiquement, on devrait plutôt traduire, il l'a, en vieux français on disait tensé, il l'a grondé, et la fièvre est partie. Si vous avez la parole de Dieu avec vous, si vous avez la parole de Dieu en vous, alors vous allez gronder l'opposition, alors vous allez menacer ce qui vous fait de l'obstruction dans votre vie. Vous allez vous fâcher. C'est pas, comprenez-moi bien, je dis pas qu'il faille toujours chasser des démons, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas parce qu'on parle à un problème que forcément on définit que ce problème doit être reconnu et identifié comme une personne démoniaque. C'est pas ce que je veux dire. Mais quand vous utilisez la parole de Dieu pour gronder un problème, vous vous opposez à lui directement. Et je dis à beaucoup de personnes que tant qu'ils prient Dieu de faire quelque chose, ils verront pas de résultat. Quand vous avez un problème, vous dites « Oh Seigneur, viens délivre-moi », c'est une chose. Mais quand vous-même, avec le nom de Jésus et la parole de Dieu qui est en vous, vous-même vous vous adressez à ce problème, vous lui dites « Tu », vous saurez que vous êtes en train de faire une prière d'autorité si au lieu de demander de parler à Dieu, si vous-même vous êtes en train de parler au problème et vous lui dites « Tu, toi, tel problème ». Par exemple, « Dispute dans mon foyer ». Maintenant, au nom de Jésus, à toi, moi, je te dis à toi que tu quittes mon foyer maintenant. Voilà, vous faites ça dans votre chambre tout seul, là, vous le coltinez, vous le regardez dans les yeux, vous le chopez comme ça, vous dites maintenant tu quittes, et vous lui dites pourquoi, quelles armes vous avez pour le chasser. Parce que Dieu nous a pas dit ça, parce que Dieu nous a dit, par exemple, vous allez citer un verset qui dit, Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Alors la paix, c'est pas la dispute. Jésus m'a dit, je vous laisse ma paix, j'ai Jésus et j'ai la paix. Alors la dispute, maintenant tu dégages. Ouais, voilà comment il faut parler à ses ennemis. Vous n'allez pas leur caresser le poil en essayant de les convaincre. Vous n'allez pas leur essayer de les enthousiasmer à vos idées. Il faut les chasser. Jésus a menacé la fièvre. Il a grondé. Ben, elle est partie. Vous voyez, quand on lit ça souvent... Quelqu'un, il y en a qui font ça après un truc pour dire, bon, donc cette fièvre était un démon, etc. Peut-être, mais peut-être pas. Mais je vais vous dire la vérité, je m'en fous. Ce que je veux, c'est le résultat. Ce qu'on veut, c'est que la présence de Jésus en nous, la présence de la parole de Dieu en nous, habitée par le Saint-Esprit, manifeste la force. Et cette force est faite pour nous délivrer, pour nous libérer. Nous avons... Il y a un des versets qui est pour moi, comment on pourrait dire, une ligne de conduite pour ma vie, c'est dans Josué 1:8 où il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Voyez, le méditer, car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est ce que Josué a fait. Pour moi, c'est une ligne, je dirais ça peut l'être pour chacun d'entre nous, mais Dieu peut vous donner à chacun d'entre vous quelque chose qui est spécial pour votre vie, une ligne directrice. Pour moi, c'est la mienne. Et je sais que quand dans ma vie quelque chose commence à pas trop bien aller, je sais que quand je commence à me sentir moins bien, quand je sais que j'ai qu'à regarder quelle est ma relation directe et ma proximité avec la parole de Dieu. Et le temps que je passe avec, et je me rends compte à chaque fois, quand j'ai des moments qui descendent un petit peu en dessous de la ligne normale, eh bien je sais que c'est parce que je me suis relâché dans ce domaine-là. Et j'ai qu'à commencer à reprendre la Bible, relire la Bible, la méditer. Frères et sœurs, adoptez un programme de lecture continue, quotidien et suivi. Faites de la lecture une lecture dynamique. Surlignez, notez, si un truc vous comprenez pas, sur votre petit papier, notez la référence et la question. Et puis après, vous téléphonez, vous appelez, vous voyez quelqu'un qui en sait un peu plus que vous, et vous cherchez des réponses. Apprenez des versets par cœur. Je dis pas de les apprendre pour... Comment je pourrais dire ? Vous voyez, quand vous lisez quelque chose qui vous fait du bien... Sur le champ, là tout de suite, apprenez-le par cœur. Alors quelqu'un va me dire, oui mais le lendemain je m'en rappellerai pas, mais ça fait rien. Parce qu'un jour tu t'es donné pendant 5-10 minutes la peine de l'apprendre par cœur, tu as fixé dans ton esprit, tu as fixé l'idée qu'il y a dans ce verset. Même si après tu peux pas le rappeler par cœur, l'idée que le Saint-Esprit a mise, cette idée, elle est maintenant gravée en toi. Si on l'apprend suffisamment pour le redire, ok, c'est bien. Mais déjà, dans un premier temps, si on peut tous les jours s'aider, il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas de mémoire. Mais la mémoire, c'est juste un muscle. Bien sûr, un muscle qu'on n'utilise jamais, ben, il est faible. Mais un muscle qu'on utilise, eh bien, il devient fort. C'est chez tout le monde. C'est que je vous mets au défi. Personne ne me dira, ma mémoire ne peut pas faire de progrès. Ce n'est pas vrai. Je ne vous crois pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Gonflez-la. Vous allez voir. Elle va devenir forte. Vous serez des monsieur muscles de la mémoire. Voilà. Écoutez, il nous faut être certains que la parole de Dieu soit utilisée. C'est pas uniquement le fait de citer comme si c'était une superstition. J'ai cité la Bible, donc ça arrive. C'est pas simplement citer pour citer, proclamer, puis ça agit tout seul. C'est pas ça. Si c'était seulement ça, ça serait une superstition avec des mots, avec des syllabes. C'est pas simplement parce qu'on cite comme ça de mémoire. C'est parce qu'on cite par l'Esprit de Dieu qui est en nous et avec la foi que ce qu'on dit est réel. Mais si vous le faites, alors vous allez voir. Vous allez voir que vous allez grandir dans la foi. Je crois que j'ai peut-être dépassé un peu maintenant. On va prier maintenant, avec foi, hein? D'accord?
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.